Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, pour le bien que tu fais à notre âme, à notre cœur. Merci pour ta fidélité et nous savons que toujours nous pouvons compter sur toi. Seigneur, nous avons mis entre tes mains ce que toi-même tu nous as donné dans ta grâce ineffable et nous te prions que cela serve aussi à la gloire et à la louange de ton nom. Maintenant, Seigneur, nous sommes en ta présence devant toi pour ouvrir ta parole et nous te demandons que par ton esprit, tu la graves dans notre cœur afin que nous puissions te glorifier par notre marche et par notre vie. Nous comptons sur toi, Seigneur, et ensemble, nous te rendons grâce au travers du nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose, mes frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre des Nombres, au chapitre 1er. Nous allons lire d'abord les trois premiers versets. Livre des Nombres, chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit : Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Nous allons un peu plus loin au même chapitre, mais au verset 47. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils firent ainsi. Amen. Voilà, je vais anticiper, parce que souvent à la fin de mon message, il y a un frère qui se précipite vers moi et qui me demande quel est le titre de message que vous avez donné. Et puis, je suis souvent embarrassé, parce que je n'ai pas l'habitude, à titre personnel, de donner un titre à mes messages. Mais celui-là, je vais le livrer, ainsi, Pierre, vous n'aurez pas à me le demander tout à l'heure. Formation de l'armée de l'Éternel. Si vous préférez, formation des soldats pour le Seigneur Jésus. Avant même d'entrer directement dans la méditation du texte que nous venons de lire ensemble, J'aimerais vous apporter en introduction quelques paroles au sujet de ces premiers livres de la Bible qui sont consignés dans ce que l'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Dans le livre de la Genèse, comme chacun d'entre nous le sait très probablement, il y a la création de l'être humain et puis la description, hélas, de sa chute, cette chute dans le péché, dans la désobéissance, en écoutant la voix de l'ennemi. Et puis dans le livre de l'Exode, alors c'est le relèvement de l'être humain, c'est la description de la rédemption. Nous connaissons tous cette image de l'agneau pascal qui a été immolé pour que le peuple soit rendu à la liberté et soit délivré de l'Égypte, autrement dit pour nous, de la puissance du monde et de la puissance du péché. Puis vient ensuite le livre du Lévitique. Et dans le Lévitique, alors, il y a le peuple qui se trouve confronté à toutes les règles spirituelles qui lui permettent d'entrer directement en relation avec Dieu. Et le tabernacle est dressé, et comme nous le savons tous, le tabernacle représentait le point de rendez-vous entre Dieu et les hommes. À cause des sacrifices qui étaient offerts, le peuple pouvait librement, eh bien, trouver une relation avec Dieu, obtenir le pardon de ses péchés et continuer dans une relation avec Dieu, puisque le sang des holocaustes qui étaient offerts représentait pour nous maintenant le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix et dont ensemble nous avons pu nous remémorer son sacrifice au travers de ce repas auquel nous avons participé. Puis ensuite, vient ensuite le livre des Nombres. Et le livre des Nombres, eh bien, c'est la marche dans le désert. Et la marche dans le désert est semée, parsemée de luttes, de combats, d'épreuves. Le peuple doit affronter les différentes nations qu'il doit, d'ailleurs dévouées par interdit, selon l'ordre de l'Éternel. Il doit marcher sous l'ordre du Seigneur et il y a là la composition de ce que l'on pourrait appeler l'armée de l'Éternel, les soldats de Dieu. Puis ensuite vient le livre du Deutéronome, et dans le livre du Deutéronome, eh bien, ce n'est que la répétition de la loi. Pourquoi ai-je dit tout ceci en introduction? Parce que mes frères et sœurs, bien souvent, quelques personnes disent la loi, les livres de la loi, les livres de l'Ancien Testament ne sont pas intéressants pour nous. Parce que dans la loi, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et nous préférons eh bien, nous tourner soit vers les psaumes, soit vers les évangiles, soit vers les épîtres, en oubliant presque qu'il est écrit, et vous le savez aussi bien que moi, c'est Paul qui a fait cette déclaration, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre enseignement, notre exhortation, pour la consolation, puis aussi pour notre édification. » Il n'y a donc absolument aucune page de l'Écriture que nous devons laisser de côté. Et lorsque nous nous trouvons en face d'une difficulté de compréhension, en lisant la parole de Dieu, tous, nous avons la possibilité de faire cette prière qui est celle d'un homme de la Bible. Quand en s'adressant à Dieu, il a dit « Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Et il y a dans chaque page de la Bible des choses qui sont précieuses, qui sont importantes. Notre frère parlait tout à l'heure de trésors et il a ajouté, permettez-moi de vous dire mon cher frère, à tort, que c'est Samuel Ferris qui allait apporter ces trésors-là, parce que les trésors qui sont contenus dans la Bible, c'est Dieu qui les a placés. Et c'est par son esprit que nous pouvons effectivement, eh bien, les saisir. Dieu veut nous enrichir au travers de sa parole, pour qu'en obéissant à sa parole, nous puissions découvrir la fidélité de Dieu, qui est capable de nous combler de ses riches bénédictions et de faire de nous un peuple de vainqueurs. Alors, vous avez certainement remarqué, en lisant avec moi et avec attention ces textes de la parole de Dieu, qu'il y a en fait parmi le peuple d'Israël deux catégories de personnes. Il y a ce que l'on appelle les Lévites, une tribu particulière qui était consacrée au service du tabernacle, consacrée à Dieu. Et si vous l'avez remarqué, vous avez dû faire attention à ce fait, Dieu ne demande pas aux Lévites de combattre, de faire partie de ces soldats qui se trouvaient à l'extérieur. Mais ces Lévites avaient justement à se tenir dans le tabernacle et ils logeaient autour du tabernacle, je dirais dans la partie immédiate qui entourait le tabernacle. Leur rôle, c'était de veiller à ce que tout soit fait dans le tabernacle selon ce que Dieu avait montré aussi à Moïse sur la montagne. Et ils agissaient pour que la sainteté de Dieu puisse être maintenue, pour que la gloire et la magnificence de Dieu soient toujours mises en exergue. Et c'est en effet, en obéissant à ce que Dieu avait prescrit, que ces hommes qui avaient cette tâche particulière de démonter le tabernacle quand il fallait se déplacer, et puis ensuite de le remonter quand ils arrivaient dans un lieu où Dieu lui-même montrait que c'était l'endroit qu'il avait lui-même désigné, ils étaient soumis à l'injonction du Saint-Esprit, et d'ailleurs, dans leur marche, ils étaient toujours conduits par une nuée qui représente pour nous l'action du Saint-Esprit. Quelquefois, j'ai entendu des chrétiens me dire, vous savez, j'aurais bien aimé vivre en ce temps-là, parce que la nuée visible, elle ne pouvait pas être un moyen de confusion. Le peuple avait les regards sur la nuée et se rendait bien compte que c'était Dieu qui dirigeait, qui conduisait, tandis que maintenant, on n'a pas le même privilège, on ne voit pas. Mais vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit ? Heureux ceux qui ne voient pas, mais qui croient. Et nous, nous croyons en quoi ? Nous croyons en l'action puissante du Saint-Esprit, qui même au travers des pires difficultés, au travers des pires épreuves, au travers de tout ce que nous pouvons connaître ici-bas, sur cette terre, en traversant ce monde qui est pour nous comme un désert, peut nous montrer avec précision ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et quand nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur et qu'on nous obéissons, alors nous sommes agréables à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ma prière, eh bien, c'est celle de cet homme de la Bible qui disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors je reviens maintenant à mon texte. Là, Dieu ordonne à ce peuple de faire un dénombrement de l'assemblée, c'est-à-dire de savoir quels sont ceux qui sont capables aussi de se définir par une certaine généalogie. C'est-à-dire que Dieu voulait que chacun puisse s'identifier parfaitement. Je vais essayer de vous dire comment nous devons comprendre cela. Vous savez, dans le peuple chrétien, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prétendent faire partie de la famille de Dieu. mais qui, hélas, n'ont pas fait une expérience fondamentale de base qui s'appelle la nouvelle naissance. Et je voudrais bien mettre en évidence ce matin quelque chose qui est important. Chacun d'entre nous devrait pouvoir, dans le fond de son cœur, dire avec une certitude absolue, je sais en qui j'ai cru et je sais que je suis un enfant de Dieu. Vous savez, le malin déploie des efforts désespérés pour nous faire douter de cette glorieuse réalité que nous sommes par la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à sa parole devenus membres de la famille de Dieu. Être un enfant de Dieu et avoir ce témoignage de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de son cœur, c'est une force formidable. Parce que quand le malin vient pour nous attaquer, nous pouvons alors simplement lui dire, tu peux mettre en relief tout ce que tu constates de moi dans ma chair, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus habite en moi, son esprit habite en moi, et par son esprit, j'ai la certitude que je suis son enfant. La Bible dit, et c'est Jean qui en parle dans son épître, nous sommes enfants de Dieu. Et si le monde ne nous reconnaît pas comme tel, c'est parce que le monde ne l'a pas connu lui. Mais nous, nous savons en qui nous avons cru. Imaginez un peu les enfants d'Israël qui sont appelés par Dieu au travers de Moïse, au travers d'Aaron, pour devenir des soldats, mais qui douteraient de leur filiation, qui douteraient du fait qu'ils appartiennent réellement au peuple de Dieu. Ça, c'est une impossibilité. Chacun pouvait dire avec certitude, « Voilà, j'appartiens à Israël, je fais partie de cette tribu-là, je suis un descendant de telle famille. » Chacun pouvait le dire avec clarté. Mes frères et sœurs, parce que nous sommes cachés en Christ, nous devons pouvoir dire avec autant d'assurance, « Je sais en qui j'ai cru. » Et l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous le croyez, cela? Nous sommes cachés en Christ. Ma force, c'est de m'appuyer, de me reposer, non seulement sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi sur la croix, mais aussi sur cette glorieuse réalité. Christ est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, et il est à la droite du Père, et il intercède pour moi. S'il intercède pour moi, c'est qu'il connaît parfaitement toutes mes faiblesses. Et il intercède pour moi, et je peux m'approcher donc du trône de la grâce en ayant une absolue confiance en son intercession. Parce que si moi je suis faible, lui il est fort. Et si à cause de ce que je suis, je pourrais craindre de ne pas être entendu de mon Père Céleste, à cause de Jésus-Christ, je sais que j'ai toujours une place au pied de ce trône pour être consolé, pour être encouragé, pour être fortifié et pour être surtout transformé de gloire en gloire en son image comme par le Seigneur l'Esprit. Je remarque une chose, non seulement il fallait pouvoir donner sa filiation, mais il y avait un certain âge. Les enfants ne pouvait pas être compté. Il est dit de 20 ans et au-dessus. Alors, je dois vous dire ce matin qu'il y a une grande joie dans mon cœur. Parce que j'ai dépassé 20 ans et Dieu n'a pas mis de limite au-dessus. Et vous voyez, des hommes comme Caleb, ils avaient 85 ans et ils étaient plus que vainqueurs. Vous savez, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est de marcher fidèlement jusqu'au bout. Il n'y a pas de retraite pour le chrétien. Ça n'existe pas, la retraite pour le chrétien. Parce que nous sommes engagés dans le service de Dieu. Et voyons pourquoi il a dit de 20 ans et au-dessus. Parce que déjà, je dirais, comme un préalable, eh bien, Dieu était en train de montrer qu'on ne peut pas compter sur des enfants spirituels pour mener le vrai combat, la véritable lutte. Dans un instant, nous allons voir ensemble que le chrétien doit devenir un soldat. Entendez Paul parler à Timothée. Et il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un soldat. Nous sommes tous appelés de Dieu à entrer dans cette armée qui doit être plus que vainqueur. Et nous avons à lutter contre quoi ? Eh bien, nous en parlerons. Nous avons à lutter contre l'esprit du monde. Nous avons à lutter contre la chair. Mais nous avons à lutter aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans ce combat-là, si nous ne sommes pas soutenus par l'action puissante du Saint-Esprit et que la parole de Dieu ne règne pas dans notre cœur, alors nous allons avoir beaucoup de difficultés. Et Dieu nous appelle à nous placer sous sa bannière. Il y a dans un psaume, le psaume 60, eh bien, un verset qui dit ceci. « Dieu élève une bannière au-dessus de tous ceux qui le craignent. » Et il est ajouté « à cause de la vérité ». Dans le livre du Cantique des Cantiques, eh bien, la bien-aimée, qui représente l'Église, comme vous le savez très certainement, s'adresse ainsi au Seigneur et elle dit « Il élève sur moi sa bannière ». Et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Et voyez-vous, l'amour que Dieu déploie sur nos vies et l'amour de la vérité, il la déverse dans notre cœur. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour la vérité, c'est le résultat d'une action puissante du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'agit pas en nous, eh bien, il n'y a pas cet amour pour le Seigneur. Et ce qui doit toujours, 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 eh bien, nous encourager, nous aider à poursuivre notre route, à être persévérants jusqu'à la fin, c'est l'amour pour sa parole et c'est l'amour pour le Seigneur. Je devrais dire en retour, plutôt à l'inverse, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour sa parole, et puis de là va découler naturellement l'amour aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Rien d'autre ne pourra compter autant pour nous que cela. C'est aussi pour cette raison que je dis, qui va entendre ce matin l'appel du Seigneur ? Écoutez bien, mes frères et sœurs. J'ai parlé de filiation pour les enfants d'Israël. Mais il n'y a pas tous ceux qui était apparenté à Abraham, qui pouvait entendre cet appel et qui pouvait être dénombré pour former l'armée d'Israël. Savez-vous pourquoi ? Parce que parmi les descendants d'Abraham, comme vous le savez, il y avait beaucoup de personnes qui étaient apparentées à Abraham, mais qui n'avait pas, je dirais, un témoignage adéquat pour devenir un soldat dans l'armée d'Israël. Par exemple, nous savons tous qu'à côté d'Abraham a marché un certain personnage pendant un temps qui s'appelle Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Mais voyez-vous, ce qui caractérise Lot et qui est d'ailleurs mentionné dans l'Écriture, c'est que cet homme-là pouvait vivre tout près de ceux qui avaient une vie désordonnée, une vie en contradiction avec la volonté de Dieu. Il pouvait vivre aux portes de Sodome et de Gomorre. Et Il en tourmentait son âme juste, d'après le témoignage de la parole de Dieu. Vous voyez là, il ne s'agit pas de savoir si on est sauvé ou pas sauvé. L'autre était juste, mais malheureusement, il ne pouvait pas être vainqueur dans le combat. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la force de se séparer de ce qui tourmentait son âme. Alors mes frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des hommes et des femmes qui certainement ont cru, ont accepté la valeur du sang de Jésus pour laver leur cœur et puis qui ont confessé Jésus comme étant leur sauveur, mais ils se sont arrêtés là et n'ont jamais reconnu Jésus comme étant leur Seigneur. Quand Jésus règne dans une vie, il n'y a pas de place pour tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a un rejet naturel, non pas comme sous l'influence d'une loi implacable qui serait comme un joug. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il y a certaines choses que je ne fais pas, non pas parce qu'on m'impose de ne pas les faire. Je ne les fais pas parce que l'amour pour Dieu, eh bien, me délivre de l'attrait de ce qui est mal. Et vous voyez, là, il y a une grande différence. Ce que je fais par obligation n'a aucune valeur aux yeux de l'Éternel. Mais ce que je fais par amour pour le Seigneur, ça lui est agréable. Et je vais vous dire, plus encore, c'est l'Esprit de Dieu qui crée le vouloir et le faire. Parmi les parents d'Abraham, eh bien, il y avait le fils d'Ismaël, et nous savons tous très bien qu'il y a là une lien de parenté avec Abraham, mais la parole de Dieu, notamment dans l'épître de Paul aux Galates, place une comparaison. Il dit, par exemple, au sujet de Agar, qui a été la maman d'Ismaël. C'est quoi, Agar ? Eh bien, c'est la loi. C'est ce qui est passé. Et tous ceux qui sont sous l'influence de la loi ne peuvent pas être au bénéfice de l'œuvre de la grâce. Ils sont donc disqualifiés et ne peuvent pas entrer dans l'armée de l'Éternel en tant que soldats de Dieu. Parmi les parents d'Abraham, il y a les enfants de Kétura. Vous savez qu'après la mort de Sarah, ce noble vieillard, il avait encore des forces. Puis il s'est remarié encore avec une femme qui s'appelle Kétura et il a eu encore des enfants. Et ces enfants-là, eh bien, représentent tout ce qui a trop de place dans le cœur humain, tout ce qui est naturel, la pensée philosophique, bien des choses qui viennent simplement du cœur naturel de l'homme et que l'on pense parfois être bon pour Dieu, mais que Dieu n'accepte pas. Parce que la chair, ce n'est pas seulement les choses ignobles que l'on rejette parce qu'elles sont tellement viles qu'on ne veut même pas y toucher. Mais la puissance de la chair peut avoir des bonnes apparences. Par exemple, je dis simplement en passant ceci. Quand Nicodème s'est approché de Jésus, il est venu avec de bonnes intentions. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nicodème ? Tu es certainement un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces choses s'il n'est envoyé de Dieu. Et en quelque sorte, il avait l'air de glorifier le Seigneur. Avez-vous remarqué ? Ce que Jésus lui dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu. Et il avait du mal à comprendre cela. Vous savez, je connais beaucoup de pasteurs qui seraient heureux d'accueillir énormément de Nicodème. Parce que Nicodème, en tant que docteur de la loi, savez-vous ce qu'il faisait ? Il était capable de donner la dîme de tous ses biens à l'œuvre de Dieu. Il priait au moins 2 heures par jour. ils jeûnaient plusieurs fois par semaine. Eh bien, voyez-vous, certains pasteurs diraient, mais ça, c'est un excellent chrétien. Jésus ne l'a pas accepté comme tel. Et il lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, la chair, ce n'est pas simplement ce qui est mauvais, souillé, corrompu, mais c'est aussi ce que nous croyons être bien en nous et que nous présentons comme notre propre justice. Savez-vous pourquoi Saül a été rejeté? Eh bien, tout simplement parce qu'il a accueilli, il a accepté Amalek et il n'a pas obéi à Dieu qui lui demandait de passer de dévouer par interdit l'Amalek, qui est un symbole de la chair. Mes frères et sœurs, il faut que nous apprenions, chacun d'entre nous, à considérer ce qui a tendance à s'élever en nous, même ce qui nous paraît bon, agréable. Vous savez, ce qui n'est pas passé à la croix ne peut pas être utile entre les mains de Dieu. Dieu nous appelle à un service, les uns et les autres. Dieu nous appelle à agir, à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est certainement pas avec les efforts de la chair, mais c'est avec le secours de l'Esprit de Dieu, avec son aide, Christ en nous. Ça, c'est notre force. Mais si Christ ne règne pas en nous, tout ce que nous pouvons faire, eh bien, a peu de valeur aux yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il nous amène toujours à reconnaître certaines choses. Ésaü faisait partie de la famille d'Abraham. Ésaü, pourtant, est condamné dans l'Écriture. Et nous trouvons, notamment dans l'Épître aux Hébreux, ce qui est dit au sujet d'Ésaü, il a préféré un plat de lentilles au droit d'aînesse. Et c'est la raison pour laquelle il a été rejeté. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, quand je vous dis qu'il fallait, pour être appelé à devenir soldat dans l'armée d'Israël, reconnaître sa filiation, il faut donc que chacun d'entre nous, d'abord, sans douter du salut de notre âme, nous demandions quand même au Seigneur de nous rendre aptes à son service. Dans les moindres choses, nous avons besoin de son aide. Savez-vous ce qui est écrit dans la parole de Dieu? C'est Jésus qui parle. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Nous, souvent c'est moi, je fais. Mais Jésus désire que nous apprenions à dire, non pas toi, mais moi au travers de toi. Je voudrais vous rappeler qu'un jour l'apôtre Paul s'est laissé aller dans une parole en apparence pleine d'orgueil, mais nous savons bien que ce n'était pas le cas de Paul, qui était un homme soumis à la volonté de Dieu. Mais un jour, il a parlé en ces termes et il a dit, « Moi, j'ai travaillé plus que eux tous. » Il parlait des autres, de tous les autres apôtres. Vous vous rendez compte? Si on s'arrêtait là, n'est-ce pas, on dirait, ben, il faut être sacrément orgueilleux pour parler de cette manière-là. Que diriez-vous de moi si je vous disais, par exemple, ce matin, vous savez, frères et sœurs, vous pouvez avoir confiance en moi, parce que moi, j'ai travaillé plus que tous mes collègues. Vous diriez, frère Ferris, prenez vite la voiture et rentrez chez vous, parce qu'on n'a pas besoin de vous ici. Et vous auriez raison. Mais immédiatement, Paul s'est repris. Et il a dit, toutefois, non pas moi, mais sa force agissant au travers de moi. Vous voyez la différence? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on doit servir dans l'Église. C'est comme ça qu'on doit être un soldat dans l'Église. Alors, je vais ici ramener à ce point qui était le point de départ. Je vous ai dit deux catégories de personnes, les Lévites et les soldats. En fait, maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, eh bien, la parole de Dieu parle de nous d'une manière différente. Cette distinction ne se trouve pas. Et la Bible dit, vous connaissez ce verset aussi bien que moi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous avons à veiller sur la tente du témoignage. C'est comme ça qu'on appelait le tabernacle, tente d'assignation, tente du témoignage. Et ce terme témoignage, eh bien, devrait nous interpeller. Nous savons tous ce que veut dire un témoignage et comment ça doit être dans la vérité. Quand quelqu'un est un témoin de quelque chose, ça doit être dans la vérité. Or, nous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Première chose, si les Lévites étaient au service à l'intérieur et les autres à l'extérieur, n'oublions jamais, mes frères et sœurs, que nous devons veiller avant tout sur notre propre cœur. Vous savez ce que nous devons être ? Jésus a parlé un jour à cette Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4 en disant ce que le Père recherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous voyez, mes frères et sœurs, c'est notre première responsabilité de chercher quotidiennement le Seigneur, mais dans une relation intime, une relation vraie, une relation pure, où nous sommes là en lui parlant à cœur ouvert, pour déverser en lui tout ce qui peut nous tracasser, aussi tout ce qui, malheureusement, pèse lourd sur notre conscience, mais en même temps, pour saisir sa grâce, saisir son pardon, saisir l'esprit de victoire, pour le louer, le glorifier. Et tandis que nous sommes là dans la présence du Seigneur, je vous assure, mes frères et sœurs, il y a bien des choses dont nous pouvons être séparés. Regardez, le livre des Actes des Apôtres nous rapporte certains faits auxquels nous devons prêter attention. D'ailleurs, puisque j'ai commencé par vous donner quelques paroles d'introduction sur les différents livres qui commencent la Bible, les cinq premiers livres de la Bible, il y a le parallèle dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile, qu'est-ce que vous voyez ? L'appel à la repentance, la présentation de la croix. Le message de cette mort expiatoire de Jésus pour que nous, nous puissions avoir le salut et la vie éternelle. Vous allez un peu plus loin, vous entrez dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que vous découvrez ? La venue du Saint-Esprit, la formation de l'Église. Voyez l'équivalent du Lévitique. Et l'Église est là, formée par la puissance du Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il à ses frères et sœurs qui sont sous l'influence du Saint-Esprit ? Eh bien, ils vivent une vraie communion fraternelle. Les yeux de chacun sont fixés sur le Seigneur. Ils sont dans la crainte de Dieu, qui ne signifie pas la peur, mais une soumission volontaire, un respect de Dieu. Et tandis qu'ils sont là, eh bien, ils sont au bénéfice des choses les plus merveilleuses qui soient, puisqu'il est dit qu'il y a des miracles, des prodiges qui s'accomplissent. Mais en même temps, regardez comment l'Esprit de Dieu veillait à la pureté, à la sainteté de l'Église. Deux personnages arrivent, vous les connaissez bien, Ananias et Saphira, voulant faire croire au peuple à leur générosité, alors qu'ils avaient la liberté de garder ce résultat de la vente du champ pour eux-mêmes. Rien n'était exigé, mais c'est cette forme de duplicité, cette sorte d'hypocrisie, cette forme de vie qui n'est faite que d'apparence. Et vous voyez là où il y a la crainte de Dieu et où il y a la sainteté de Dieu qui se manifeste. N'est-il pas écrit dans la Bible que dans l'assemblée des saints, le méchant ne subsistera pas ? Et c'est ce qui est arrivé. Ananias et Saphira ont reçu un juste châtiment. Parce que, vraiment, la présence de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Quelque chose qui saisit notre cœur pour nous amener toujours plus loin avec lui, mais qui juge le mal à nous. Heureusement, l'Esprit de Dieu fait cela. Il ne nous condamne pas, nous, mais il veut nous purifier. Il veut purifier notre cœur de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et puis, quand on dépasse le livre des Actes des Apôtres, alors on arrive aux Épîtres. Et quand on arrive aux Épîtres, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le combat, la lutte contre la chair, contre le monde, contre les esprits méchants. Tout cela, vous le trouvez dans les différentes Épîtres. Par exemple, vous avez dans l'Épître de Paul aux Romains cette description de la puissance du monde qui voudrait envahir l'Église. Même Jean en parle. Et quand il dit à l'Église, avec des termes assez sévères, ce qui se passe quand on a l'amour du monde dans le cœur, eh bien, nous devons rien comprendre cet enseignement-là. Et la Bible dit que le monde est inimitié contre Dieu. Mes frères et sœurs, ne vous attendez pas. Si vous voulez être fidèle à Dieu, être bien accueilli par les gens de ce monde. Jésus lui-même s'est exprimé en ces termes. Et il a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Mais s'ils m'ont haï, eh bien vous connaîtrez aussi le même sort. Et des fois, nous sommes étonnés qu'en marchant dans ce monde, eh bien, nous avons à affronter certaines choses. Écoutez bien, l'esprit du monde est absolument contraire à la volonté de Dieu. Et un chrétien doit marcher à contre-courant dans ce monde. D'ailleurs, c'est ça la croix. Pardonnez-moi, je vais dire ce que souvent j'ai eu l'occasion de dire. Certains chrétiens n'ont pas bien saisi le sens de la croix. J'en ai un jour qui m'a dit, « Oh, vous savez, moi, la croix, c'est ma belle-mère. » Ben non. Il a même ajouté, « Ma belle-mère, à elle, toute seule. » Parce que j'ai voulu le consoler maladroitement, j'étais tout jeune serviteur de Dieu. Et je lui ai lu un passage où Israël était vainqueur des Philistins. Il m'a arrêté en pleine course et il m'a dit, « Vous savez, tous les Philistins ensemble ne peuvent pas représenter ma belle-mère. » Imaginez un peu dans quel état il était, hein. Vous voyez, c'est comme ça que certaines personnes parlent. La macroix, c'est telle maladie. Macroix, c'est telle chose qui m'arrive, telle épreuve. Mais non, c'est pas ça la croix. La croix, c'est quand tu veux faire la volonté de Dieu, que tu marches en lui obéissant et que tu es obligé d'intercepter là, sur cette voie, la volonté soit des tiens, soit des hommes dans ce monde, soit des amis, soit parfois des frères et sœurs, mais qui n'ont pas compris le plan de Dieu. Et toi, tu dois aller jusqu'au bout. À cette interception-là, il y a toujours une souffrance. Il y a toujours mal. Et c'est peut-être, mes frères et sœurs, ce que vous pouvez connaître pendant un temps maintenant. Et la victoire appartient à Dieu. Ne reculons pas devant la croix. La croix reste debout. Et la croix, c'est le symbole de la victoire. Nous, nous devons être fidèles à ce que dit la parole de Dieu, sans nous éloigner de la vérité. Et même si nous sommes incompris, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Parce que ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Alors, on fera faire fi de l'esprit de ce monde et nous soumettre à l'esprit du Seigneur. Puis il y a la chair. La Bible dit, vous connaissez aussi bien que moi ces passages, c'est Paul qui le souligne souvent dans son épître aux Galates, dans différentes épîtres d'ailleurs, et nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et bien souvent, malgré nous, il y a des réactions, nous le savons bien. Et la chair se manifeste, elle peut se manifester de différentes manières. Mais la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Est-ce que vous avez remarqué, et je suis sûr que oui, le nombre de fois où après avoir passé un certain temps dans la présence du Seigneur, mais vous savez, pas un temps que l'on accomplit comme un devoir, non pas un moment comme ça où on croit que l'on fait le devoir de chrétien, de lire un passage de la Bible, de prier, vous savez, comme une servitude. Non. Une relation avec le Seigneur, une communion avec lui. Et vous savez, quand on se relève de là, eh bien, on n'est pas le même. On ne ressent pas les choses de la même manière. Moi, je reconnais que bien souvent, il y a eu des réactions violentes de ma propre chair, des réactions que je peux appeler normales, parce qu'on est des humains. Mais en fait, quand Dieu remplit notre cœur, bien ce qui nous semble normal devient à nos yeux horrible. Et puis on commence à comprendre que ce qui est important, c'est de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Et puis enfin, souvenez-vous, et c'est pourquoi je dis que c'est un appel à devenir des soldats. La Bible dit, dans une épître, cela est clairement écrit par l'apôtre Paul, « Revêtez-vous des armes de la lumière. » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, comprenez-la maintenant, c'est plus contre les êtres, les individus que nous avons à faire. Parce que derrière les individus, il y en a un qui manipule comme si les êtres humains étaient des marionnettes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons tendance à nous attaquer à ces êtres-là. Mais derrière ces êtres, il y a le diable. Et c'est l'esprit méchant dans les lieux célestes que nous avons à attaquer. Et il nous a remis toutes les armes. Vous vous souvenez du casque du salut, vous savez que nous avons besoin de la cuirasse de la justice, que nous avons besoin de la ceinture de la vérité, que nous avons l'épée de l'esprit, que nous avons le bouclier de la foi. Toutes ces choses-là, Dieu les a mises à notre disposition pour que nous ne soyons pas terrassés par l'ennemi. Alors j'ai envie de vous crier, frères et sœurs, veillons sur notre cœur avant tout, plus que sur toute autre chose. Et puis ensuite, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur pour lui dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand nous devenons comme cela, entre ses mains, malléables, alors la gloire de Dieu peut se manifester. Bon courage, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, règne dans nos vies et dans nos cœurs, en nous conduisant toujours plus loin avec toi. Que ta parole trouve un écho favorable dans nos vies. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ici présents, comme ceux qui sont absents, qui se trouvent dans un lieu de repos. Seigneur, que ta présence aussi leur soit sensible et que chacun puisse se tenir devant toi comme un vaillant guerrier, comme un soldat, pour ne pas se laisser influencer par le monde, ni par la chair, ni par la puissance des ténèbres, mais d'avoir les yeux fixés sur toi et d'avancer en étant toujours plus que vainqueur par ta grâce. Seigneur, c'est sur toi que nous comptons, parce que nous n'avons pas d'autre appui, ni d'autre forteresse, ni d'autre refuge que toi. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Seigneur, c'est dans tes bras que nous voulons nous jeter et nous attendre à ton aide et à ton secours. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.